Chapitre 16. Mais ce soir-là, Ralph fut vraiment insupportable. Jamais il ne fut plus lourd, plus froid et plus fastidieux. Il ne put rien dire à propos et, pour comble de maladresse, la soirée était déjà fort avancée qu'il n'avait encore fait aucun préparatif de départ. Madame Delmar commençait à être mal à l'aise. Elle regardait alternativement la pendule qui marquait 11 heures, la porte que le vent faisait grincer et l'insipide figure de son cousin qui, établi vis-à-vis d'elle sous le manteau de la cheminée, regardait paisiblement la braise sans paraître se douter de l'importunité de sa présence. Cependant, le masque immobile de Sir Ralph, sa contenance pétrifiée, cachait en cet instant de profondes et cruelles agitations. C'était un homme à qui rien n'échappait, parce qu'il observait tout avec sang-froid. Il n'avait pas été dupe du départ simulé de Raymond. Il s'apercevait fort bien, en ce moment, des anxiétés de Madame Delmar. Il en souffrait plus qu'elle-même, et il flottait irrésolu entre le désir de lui donner des avertissements salutaires et la crainte de s'abandonner à des sentiments qu'il désavouait. Enfin, l'intérêt de sa cousine l'emporta, et il rassembla toutes les forces de son âme pour rompre le silence. « Cela me rappelle, lui dit-il tout à coup, en suivant le cours de l'idée qui le préoccupait intérieurement, qu'il y a aujourd'hui un an, nous étions assis, vous et moi, sous cette cheminée, comme nous voici maintenant. La pendule marquait à peu près la même heure, le temps était sombre et froid comme ce soir. Vous étiez souffrante et vous aviez des idées tristes, ce qui me ferait presque croire à la vérité des pressentiments. » Où veut-il en venir ? Pensa Madame Delmar en regardant son cousin avec une surprise mêlée d'inquiétude. Te souviens-tu, Indiana, continua-t-il, que tu te sentis encore plus mal qu'à l'ordinaire ? Moi, je me rappelle tes paroles comme si elles retentissaient encore à mes oreilles. Vous me traitez de folle, disais-tu, mais il y a un danger qui se prépare autour de nous et qui pèse sur quelqu'un. Sur moi, sans doute, je me sens ému comme à l'approche d'une grande phase de ma destinée. J'ai peur. Ce sont tes propres expressions, Indiana. Je ne suis plus malade, répondit Indiana, qui était redevenue tout d'un coup aussi pâle qu'au temps dont parlait Sir Ralph. Je ne crois plus à ces vaines frayeurs. Moi, j'y crois, reprit-il, car ce soir-là, tu fus prophète, Indiana. Un grand danger nous menaçait, une influence funeste enveloppait cette paisible demeure. Mon Dieu, je ne vous comprends pas. Tu vas me comprendre, ma pauvre amie. C'est ce soir-là que Raymond de Ramière entra ici. Tu te souviens dans quel état ? Ralph attendit quelques instants sans oser lever les yeux sur sa cousine. Comme elle ne répondit rien, il continua. Je fus chargé de le rendre à la vie, et je le fis, autant pour te satisfaire que pour obéir aux sentiments de l'humanité. Mais, en vérité, Indiana, malheur à moi pour avoir conservé la vie de cet homme. C'est vraiment moi qui ai fait tout le mal. Je ne sais de quel mal vous voulez me parler, répondit Indiana sèchement. Elle était profondément blessée de l'explication qu'elle prévoyait. Je veux parler de la mort de cet infortuné, dit Ralph. Sans lui, elle vivrait encore. Sans son fatal amour, cette belle et honnête fille qui vous chérissait serait encore à vos côtés. Jusque-là, Madame Delmar ne comprenait pas. Elle s'irritait jusqu'au fond de l'âme de la tournure étrange et cruelle que prenait son cousin pour lui reprocher son attachement à M. de Ramière. « C'en est assez, » dit-elle en se levant. Mais Ralph ne parut pas y prendre garde. « Ce qui m'a toujours étonné, dit-il, c'est que vous n'ayez pas deviné le véritable motif qui amenait ici M. de Ramière par-dessus les murs. » Un rapide soupçon passa dans l'âme d'Indiana, ses jambes tremblèrent sous elle et elle se rassit. Ralph venait d'enfoncer le couteau et d'entamer une affreuse blessure. Il n'en vit pas plutôt l'effet qu'il eut horreur de son ouvrage. Il ne songeait plus qu'au mal qu'il venait de faire à la personne qu'il aimait le mieux au monde. Il sentit son cœur se briser. Il eût pleuré amèrement alors s'il avait pu pleurer. Mais l'infortuné n'avait pas le don des larmes, il n'avait rien de ce qui traduit éloquemment le langage de l'âme. Le sang-froid extérieur avec lequel il consomma cette opération cruelle lui donna l'air d'un bourreau aux yeux d'Indiana. « C'est la première fois, lui dit-elle avec amertume, que je vois votre antipathie pour M. de Ramière employer des moyens indignes de vous. Mais je ne vois pas en quoi il importe à votre vengeance d'entacher la mémoire d'une personne qui me fut chère et que son malheur eût dû nous rendre sacrés. Je ne vous ai pas fait de questions, Sir Ralph. Je ne sais de quoi vous me parlez. Veuillez me permettre de n'en pas écouter davantage. » Elle se leva et laissa M. Brown étourdi et brisé. Il avait bien prévu qu'il n'éclairerait Mme Delmar qu'à ses propres dépens. Sa conscience lui avait dit qu'il fallait parler, quoi qu'il en pût résulter, et il venait de le faire avec toute la brusquerie de moyens, toute la maladresse d'exécution dont il était capable. Ce qu'il n'avait pas bien apprécié, ce fut la violence d'un remède si tardif. Il quitta le Lagny désespéré et se mit à errer au milieu de la forêt dans une sorte d'égarement. Il était minuit, Raymond était à la porte du parc. Il l'ouvrit. Mais en entrant, il sentit sa tête se refroidir. Que venait-il faire à ce rendez-vous? Il avait pris des résolutions vertueuses. Serait-il donc récompensé par une chaste entrevue, par un baiser fraternel, des souffrances qu'il s'imposait en cet instant? Car si vous vous souvenez en quelles circonstances il avait jadis traversé ces allées et franchi ce jardin, la nuit, furtivement, vous comprendrez qu'il fallait un certain degré de courage moral pour aller chercher le plaisir sur une telle route et au travers de pareils souvenirs. À la fin d'octobre, le climat des environs de Paris devient brumeux et humide, surtout le soir autour des rivières. Le hasard voulut que cette nuit-là fût blanche et opaque, comme l'avaient été les nuits correspondantes du printemps précédent. Raymond marcha avec incertitude parmi les arbres enveloppés de vapeurs. Il passa devant la porte d'un kiosque qui renfermait, l'hiver, une fort belle collection de géraniums. Il jeta un regard sur la porte et son cœur battit malgré lui à l'idée extravagante qu'elle allait s'ouvrir peut-être et laisser sortir une femme enveloppée d'une pelisse. Raymond sourit de cette faiblesse superstitieuse et continua son chemin. Néanmoins, le froid l'avait gagné et sa poitrine se resserrait à mesure qu'il approchait de la rivière. Il fallut la traverser pour entrer dans le parterre, et le seul passage dans cet endroit était un petit pont de bois jeté d'une rive à l'autre. Le brouillard devenait plus épais encore sur le lit de la rivière, et Raymond se cramponna à la rampe pour ne pas s'égarer dans les roseaux qui croissaient autour de ses marges. La lune se levait alors et, cherchant à percer les vapeurs, jetait des reflets incertains sur ces plantes agitées par le vent et par le mouvement de l'eau. Il y avait, dans la brise qui glissait sur les feuilles et frissonnait parmi les remous légers, comme des plaintes, comme des paroles humaines entrecoupées. Un faible sanglot partit à côté de Raymond et un mouvement soudain ébranla les roseaux. C'était un courlis qui s'envolait à son approche. Le cri de cet oiseau des rivages ressemble exactement au vagissement d'un enfant abandonné. Et quand il s'élance du creux des joncs, on dirait le dernier effort d'une personne qui se noie. Vous trouverez peut-être Raymond bien faible et bien pusillanime. Ses dents se contractèrent et il faillit tomber. Mais il s'aperçut vite du ridicule de cette frayeur et franchit le pont. Il en avait atteint la moitié lorsqu'une forme humaine à peine distincte se dressa devant lui au bout de la rampe, comme si elle l'eût attendu au passage. Les idées de Raymond se confondirent, son cerveau bouleversé n'eut pas la force de raisonner, il retourna sur ses pas et resta caché dans l'ombre des arbres, contemplant d'un œil fixe et terrifié cette vague apparition qui restait là, flottante, incertaine, comme la brume de la rivière et le rayon tremblant de la lune. Il commençait à croire pourtant que la préoccupation de son esprit l'avait abusé et que ce qu'il prenait pour une figure humaine n'était que l'ombre d'un arbre ou la tige d'un arbuste, lorsqu'il la vit distinctement se mouvoir, marcher et venir à lui. En ce moment, si ses jambes ne lui eussent entièrement refusé le service, il se fût enfui aussi rapidement, aussi lâchement que l'enfant qui passe le soir auprès des cimetières et qui croit entendre des pas aériens courir derrière lui sur la pointe des herbes. Mais il se sentait paralysé et embrassa pour se soutenir le tronc d'un saule qui lui servit de refuge. Alors Sir Ralph, enveloppé d'un manteau de couleur claire, qui, à trois pas, lui donnait l'aspect d'un fantôme, passa auprès de lui et s'enfonça dans le chemin qu'il venait de parcourir. « Maladroit espion !» pensa Raymond en le voyant chercher la trace de ses pas. « J'échapperai à ta lâche surveillance et pendant que tu montes la garde ici, je serai heureux là-bas. » Il franchit le pont avec la légèreté d'un oiseau et la confiance d'un amant. C'en était fait de cette erreur. Noun n'avait jamais existé, la vie positive se réveillait autour de lui. Indiana était là-bas qui l'attendait, Ralph était là qui se tenait en faction pour l'empêcher d'avancer. « Veille !» dit joyeusement Raymond en l'apercevant de loin qui le cherchait sur une route opposée. « Veille pour moi, bon Rodolphe Brown, officieux ami, protège mon bonheur. Et si les chiens s'éveillent, si les domestiques s'inquiètent, tranquillise-les, impose leur silence en leur disant « C'est moi qui veille, dormez en paix. » Alors plus de scrupules, plus de remords, plus de vertu pour Raymond. Il avait acheté assez cher l'heure qui sonnait. Son sang glacé dans ses veines refluait maintenant vers son cerveau avec une violence délirante. Tout à l'heure, les pâles terreurs de la mort, les rêves funèbres de la tombe, à présent, les fougueuses réalités de l'amour, les âpres joies de la vie. Raymond se trouvait audacieux et jeune comme au matin, lorsqu'un rêve sinistre nous enveloppait de ses linceuls et qu'un joyeux rayon du soleil nous réveille et nous ranime. Pauvre Ralph, pensa-t-il en montant l'escalier dérobé d'un pas hardi et léger. C'est toi qui l'as voulu. Fin de la deuxième partie.